Merci de nous suivre et on va aujourd'hui faire un petit peu de coaching. Peut-être vous coacher, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, vous accompagner. Alors on va tâcher là aussi de vous aider, de vous guider. C'est vrai que cette année est assez singulière, chers amis, tout comme l'ont été ces dernières années, hein, j'ai envie de dire, depuis cette pandémie mondiale. En quoi cette année sera différente que les années précédentes? Comment allez-vous vous organiser, vous réorganiser? Comment faire face d'une manière générale aux difficultés? Comment se préparer aussi à l'ambiguïté et l'incertitude ambiante? On est un petit peu perdu. Heureusement, il y a des personnes dont c'est le métier, qui vous coachent au quotidien et qui, elles aussi, sont conscientes de ce qui se passe. Alors, une nouvelle année, oui, mais comment? Alors, bonne année à tous et on y va.
Jordan Rizzi, de 9h à 11h, dans Service Première.
J'ai le plaisir de vous retrouver, cher coach Rebecca Domergue, bonjour.
Bonjour Jordan.
Rebecca, on vous avait déjà entendu sur nos ondes, c'est un grand plaisir, vous êtes coach certifié et vous nous accompagnez ce matin. Comment allez-vous, chère Rebecca?
Très bien, merci.
Ouais, l'année a bien commencé?
Oh oui, plutôt oui.
Ouais, je vous demanderai tout à l'heure, qui coach la coach?
Oui, superviseur.
Eh ben oui, il faut se faire coacher quand on est soi-même coach. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une consoeur, Eliane Ranguin-Molza. Bonjour Eliane.
Bonjour Jordan, bonjour aux auditeurs de Guadeloupe La Première.
Comment allez-vous?
Eh bien moi je vais merveilleusement bien.
Bon, alors on a quelque chose en commun, moi je ne suis pas coach mais je suis moulien.
Oh.
M'a dit que vous étiez du moule.
Non, alors moi,
ah,
mon cabinet se situe sur le moule,
oui,
mais je suis satanaise.
Non, mais si votre cabinet se situe au moule, vous êtes moulienne, sachez-le, c'est comme ça.
Eh bien, c'est comme ça et on va dire que...
C'est d'office.
On va dire que c'est comme ça.
Ouais, on vous a baptisé, vous êtes moulienne, sinon il faut retourner à Sainte-Anne. Bon, en tout cas, on vous embrasse. Soyez la bienvenue, soyez les bienvenues toutes les deux. Alors, on rentre dans le vif du sujet. C'est vrai que cette année est... particulière, mais j'ai envie de dire depuis l'annonce de cette pandémie, nous vivons des moments un peu compliqués. Est-ce qu'en tant que coach, toutes les deux, Eliane, Rebecca, vous avez senti depuis le temps que vous exercez et qu'il y a quand même une certaine morosité, une certaine difficulté qui est prégnante, là, qui est palpable depuis, on peut le dire, l'annonce de cette pandémie? C'est plus difficile. Eliane, tiens, on va vous entendre sur cette question.
Alors, c'est vrai que vraiment, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Le monde évolue, nous évoluons aussi. Et donc, dans la conduite du changement, on ne peut pas, c'est incontournable de ne pas aussi prendre en considération les desiderata,
oui,
bien ou pas bien, hein, tout dépend de l'angle. En tous les cas, cette pandémie, ce petit virus invisible qui nous a mis tous par terre au même niveau,
oui,
a occasionné des dégâts considérables et que jusqu'à maintenant, nous sommes en pleine dent.
Ouais.
Et le tout depuis 2 ans que ça perdure. Donc, c'est vrai que le temps, la seule chose qui nous est donnée à tous de manière équitable, c'est le facteur temps.
Ouais.
Donc, mon temps n'est pas ton temps, Jordan.
Absolument.
Mais tout est question, en fait, après, de la manière.
Alors, justement.
Moi, je vais me conditionner de la manière dont je vais utiliser ce temps et qu'est-ce que je vais en faire pour faire en sorte que ce soit mis à profit et à bon escient.
On va parler de la manière dans quelques instants. Ça nous permet de faire connaissance, chère Eliane, puisqu'on a entendu vos premiers propos. Qui êtes-vous, Eliane Ranguin-Molza? Vous êtes coach, mais encore?
Alors, je suis... J'ai eu plusieurs... activité, puisque avant c'était un métier pour la vie, vous vous rappelez?
Oui.
Maintenant, c'est la diversité, c'est il faut varier et puis il faut évoluer. Donc j'étais DRH pendant 28 ans au CNRS.
Oui.
Ensuite, j'ai effectué une reconversion en tant que directrice de la communication.
D'accord.
Pendant une dizaine d'années, je suis rentrée pour des impératifs en Guadeloupe.
Mm-hmm.
J'ai exercé en tant que directrice de la communication pendant 3 ans au sein d'une collectivité. Une succession de malheurs qui arrive et qu'il faut faire face, puisque la vie est loin d'être un long fleuve tranquille.
Mmh.
Et donc, il faut se réinventer. Et justement, dans mon introspection, ma réinvention, j'ai rencontré des personnes salvatrices qui m'ont permis aujourd'hui d'être à la bonne,
ouais,
place. Je suis coach professionnel, thérapeute, hypnothérapeute.
Et vous faites partie également d'un réseau de coachs. Réseau dans lequel vous êtes également, Rebecca Domergue ?
Oui, en fait, on appelle ça une fédération. Hein. Comme le coaching, ce n'est pas un métier réglementé par l'État directement.
Oui.
On se fédère entre nous et c'est la fédération qui édite les documents de déontologie du coach, de supervision, de formation continue, etc. Et on est dans la même fédération avec Eliane.
Dans la même fédé. Vous, Rebecca, à l'instar d'Eliane, vous avez une première activité. Vous étiez quoi, trader à la City ou c'était quoi?
Alors non, justement, j'ai vu que la plupart des gens qui se reconvertissent, enfin quand on lit hein, les magazines, ils viennent de la banque.
Mais c'est ça, oui.
Alors moi, pas du tout. Moi, je travaillais dans la musique avant, dans l'édition musicale à Paris.
Ouais.
Et dans la production de spectacles, quand je suis arrivée en Guadeloupe, au Palais des Sports du Gosier.
Ah oui.
Ouais, ouais.
Donc, vous savez d'où viennent les CD qu'on a déposés devant le Palais des Sports?
Je vous embête. Alors, justement, moi, l'arrivée du Covid m'a fait me reconvertir.
Ah oui.
Puisqu'il n'y a plus de possibilités
d'événements.
De spectacles dans des salles de 5000 personnes comme ça.
Oui.
Et moi, ça a été un continuum de mes activités.
C'est à ce moment-là, donc c'est assez récent finalement. C'est à ce moment-là que vous êtes réorientée, Rebecca, par rapport à cette pandémie?
Voilà, oui. Moi, j'ai fait une formation de un an il y a 3 ans à peu près. Là.
D'accord.
Et je suis coach depuis 2 ans.
Ouais. Ok, très bien. Justement, puisque ça a redistribué les cartes également dans vos activités, est-ce que vous sentez, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, Rebecca, qu'il y a une difficulté ou en tout cas que les choses pour le monde entier, notamment professionnel, mais pas que, sentimental, affectif et j'en passe. Est-ce que encore une fois, ce Covid, cette pandémie a vraiment changé les choses, changé la donne?
Oui, pour beaucoup de personnes. Alors, c'est pas tout le monde pareil, bien sûr, mais là, oui, depuis 2 ans, je pense que les gens sont même en train de s'habituer à force, la répétition, finalement, de vivre complètement autrement.
Et il y a beaucoup de gens, dans votre cas, qui ont changé d'activité.
Qui se sont reconvertis, alors pas forcément, il y a des gens qui ont changé de planning puisqu'il y a eu le
télétravail
à temps partiel, le travail chez soi. Il y a des gens qui se sont mis à slasher, et d'ailleurs j'ai découvert cette expression à cette occasion-là. Slasher, c'est tout simplement avoir plusieurs petits jobs.
D'accord.
Il y a des gens qui se sont reconvertis, puis il y a des gens qui ont migré à l'intérieur de leur propre boîte. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas du tout changé. Hein. Il y en a qui se sont enrichis, les fabricants de vaccins.
Ouais.
Je pense qu'ils se sont plutôt donnés à cœur joie.
Alors, oui, sans vouloir rentrer dans une polémique. Le changement en général se pratique, en tout cas, on a coutume de le dire, hein, mesdames. Bonne année, quelles sont tes résolutions? On a ce côté-là. On a un peu l'impression, pardonnez-moi, que depuis justement cette pandémie, quand on dit bonne année, ça a un goût un petit peu amer. On n'y croit pas vraiment.
Alors, non, moi, c'est pas ça que je dirais, parce que ça dépend trop des gens et des contextes. En fait, pour moi, les nouvelles résolutions, c'est un peu comme les scénarios. Je ne sais pas si tu fais encore des théâtres, mais dans la dramaturgie, c'est un peu pareil. Il y a un élément déclencheur, quelque chose qui fait que ça va mal. En l'occurrence, la pandémie, mais ça peut être n'importe quoi, hein, une rencontre, un voyage, enfin quelque chose d'autre.
Ouais.
Et c'est cette chose qui nous pousse à nous remettre en question, finalement, à braver des obstacles. Et à la fin, c'est bien un changement dans la psychologie du personnage, ou dans sa moralité, qui amène à un climax et à une résolution.
Ouais.
Et ben dans la vie, c'est un peu pareil, finalement, c'est un peu le même scénario.
Eliane, vous pensez pareil? Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « bonne année », est-ce que ça n'a pas une petite saveur un peu amère? Et est-ce qu'on n'est pas soi-même un peu hypocrite quand on dit « bonne année »? Est-ce qu'on y croit vraiment?
De toutes les manières, tout est un état d'esprit. Donc, « bonne année », ça veut dire quoi? En gros, « bonne année ». On ne va pas dire « mauvaise année ».
Ouais. Mais on ne peut pas dire autre chose, c'est vrai.
C'est péjoratif. Et puis le fonctionnement du cerveau, il n'aime pas ça du tout. Il aime bien la positivité. Et puis lorsqu'on dit par exemple à un enfant, ne fais pas ci, ne touche pas à ça, c'est l'interdit. Et le cerveau n'aime pas. Donc autant faire en sorte que nous soyons mis dans la main et puis qu'on dise les choses, mais avec une positivité, une gratitude, du remerciement, enfin voilà, tout ce qui est à la page et qui est en vogue.
En tout cas, mesdames, quand on...
Bonne année, c'est je te souhaite le meilleur.
Ouais. Alors je te souhaite le meilleur, ça tombe bien que vous disiez ça, parce qu'on souhaite toujours une meilleure année que les années précédentes, et j'ai envie de dire que ça revêt un caractère particulier aujourd'hui, parce que finalement, chaque année est un petit peu complexe, bizarre. On pense sortir d'une situation, je parle notamment de cette pandémie, cette crise sociale, cette crise économique, et on se dit pourvu que cette année soit meilleure que la précédente. Ça prend tout son sens ces temps-ci.
Absolument. Absolument, puisque, comme je l'ai indiqué, stipulé tout à l'heure, nous évoluons. Donc, nous ne sommes pas statiques, nous ne sommes pas figés. Donc, nous avons besoin, à partir de nos émotions, de nos besoins, de notre vision, ce qui nous anime, notre pourquoi, aller dans le sens du mieux-être.
Alors, on va avancer, justement, et aller vers le mieux-être, on l'espère. Rebecca Domergue, je le disais tout à l'heure, bonne année, ça signifie aussi les changements, on l'a dit, on parle beaucoup de résolution, on parle beaucoup de changements à l'intérieur de soi, au niveau de ses proches. En tout cas, on veut que cette année nouvelle occasionne des changements. Comment on fait pour être différent, pour changer ?
En fait, le changement, c'est pas quelque chose de spécial finalement parce que tout change en permanence autour de nous. Alors je sais plus qui a dit ça d'ailleurs, c'est pas de moi ça, tout change. Nous, notre environnement, je ne suis plus la même que l'heure d'avant, bref.
C'est Pierre Bourdieu qui le dit.
Pierre Bourdieu dit
du systémique. Quand il y a un élément du système qui bouge, c'est interdépendant et ça fait bouger l'ensemble. Des autres éléments.
D'accord. Donc Pierre Bourdieu nous dit on bouge, on change. Mais alors, des fois, les choses bougent et elles changent. Mais nous, est-ce qu'on a vraiment, vraiment changé ? Est-ce qu'on le sent, ce changement ?
Ah ben, il faut ressentir une dissonance. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on peut être mis face à un problème. Et c'est ça qui va nous faire dire qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Il va falloir qu'on change quelque chose pour arriver à une situation nouvelle. Mais effectivement, pour ça, il faut, comme disait Eliane juste avant, être à l'écoute d'une émotion ou de quelque chose qui déclenche cette envie de changement.
Là, actuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette pandémie donne particulièrement envie de changer. Vous sentez que les gens sont un peu pressés par le temps, par la vie, par peut-être parfois une deadline, on n'a pas envie de choper une maladie, de choper un Covid, et on se dit, les gens meurent, ça va vite, j'ai envie d'accomplir mes rêves, j'ai envie de faire des choses rapidement, parce que parfois, le temps, on a un peu l'impression que le temps nous est compté. Vous sentez qu'il y a une espèce d'ambiance générale, comme ça, de rapidité, où on a envie de faire les choses ?
Oui, moi, il y a un peu un accélérateur, effectivement.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens avaient peut-être un projet, mais ils étaient encore dans une phase un peu contemplative.
Ouais, ou d'indécision, ouais.
Qu'il disait que dans 6 mois ou dans 1 an, j'ai peut-être le... Et puis, il y a des urgences de vivre, finalement, quand on voit qu'il y a des morts. Des urgences de vivre qui font qu'on rapproche peut-être nos échéances et qu'on passe à des phases d'action.
Ouais, ça, c'est important, ce que vous dites, Rebecca Domergue. Eliane, vous y souscrivez. Il y a une urgence de vivre ?
Ah oui, absolument. Nous sommes dans l'urgence de vivre. En fait, notre ligne de vie, c'est quoi ? Nous sommes nés pour mourir.
Ah oui.
Il n'y a pas d'autre issue. Enfin, j'en connais pas, moi.
Ouais.
Donc, sur cette ligne de vie, nous avons plusieurs sphères de vie, les différents domaines. Et donc, lorsque nous naissons avec l'essence même de notre personnalité qui est l'amour. Et plus nous avançons sur cette ligne de vie, nous développons l'ego et la peur. D'accord ? Donc, nous sommes en instinct de survie.
Ouais.
De toute façon, quoi qu'il arrive, nous allons tous mourir un jour. Donc, l'important, c'est quoi ? Carpe diem, je vis l'instant présent, je me consacre à moi. Comment je vais prioriser pour être en accord avec moi-même ? Sinon, on va se retrouver en dissonance cognitive.
Ouais.
Et donc, on va se mettre dans une forme de somatisation, de peur, de blessures, ressasser toujours des choses qu'on ne peut pas forcément changer puisque tout ne dépend pas de nous. Donc, c'est se rapprocher à nos valeurs, transparence, liberté, s'autoriser, la quête d'une vie, puisque le coaching, en principe, implique de se regarder moi. Parce que si je ne me regarde pas, je ne pourrai pas écouter l'autre. Donc, je vais enlever tous les filtres, les pensées, les émotions qui sont envahissantes ou limitantes. Et puis, j'irai dans une neutralité bienveillante pour être à l'écoute de l'autre et pour être attentive à l'autre, puisque moi, je ne suis rien, et toi, tu n'es rien. Mais toi et moi, nous formons le nous.
Et on forme ce nous. Alors, c'est René Char qui disait « Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie ». Peut-être que les gens aujourd'hui sont pressés de vivre comme s'ils étaient justement en retard sur la vie. C'est une bonne chose. Alors, malgré tout, il faut, j'imagine, des clés qu'on n'a pas toujours, qu'on n'a pas forcément. Là aussi, il faut être peut-être entouré. Les personnes qui viennent vous voir, mesdames Eliane et Rebecca, quel est le profil, Rebecca, des gens qui aujourd'hui, que vous coachez, que vous accompagnez?
Alors moi, je suis coach généraliste.
Ouais.
C'est des clients de toutes sortes qui viennent, hein, sur toutes sortes de problèmes. Et effectivement, un coach généraliste, on peut dire que c'est un coach vers un objectif ou vers le changement, puisqu'en fait, avoir un objectif, pour moi, c'est un prétexte pour changer. Le but, c'est le changement,
ouais.
C'est-à-dire s'adapter à une situation nouvelle. Donc déjà, voilà. Les gens, alors moi, j'avais fait un... Je ne peux pas trop parler de mes clients.
Non, bien sûr.
C'est confidentiel, mais j'avais fait un petit sondage en Guadeloupe, là.
Oui.
Dans le cadre de mon mémoire, où 67% des gens avaient entendu parler de coaching, donc les gens, ils savaient quand même ce que c'était, mais il y en avait très peu qui avaient pratiqué.
Ouais.
16%, donc 4% d'entreprises. Donc, la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est des femmes qui ont entre 35 et 50 ans, plutôt.
Ouais.
Et pour moitié employées ou fonctionnaires, ou moitié entrepreneuses et professions libérales.
Ouais.
Et il y a un point déclaratif commun, c'est que c'est des gens qui sont assez curieux. Ce qui est plutôt bon pour le changement, puisque la curiosité, ça implique un état d'esprit évolutif, une autonomie dans les apprentissages. Et principalement, les raisons pour lesquelles elles viennent consulter, c'est soit le travail, donc là on est en évolution de carrière, comme vous disiez tout à l'heure, des reconversions, mais aussi des choses comme présenter un projet, passer un examen, enfin être à l'aise en public, la confiance dans leurs capacités. Et puis il y a l'épanouissement personnel qui consiste à, ça peut aller de changer de vie, juste changer une habitude. Mieux se connaître, lever des freins, l'estime de soi, ce genre de choses, même vie de couple.
Ouais.
Voilà.
Eliane, votre côté, la tendance que vous avez au niveau de votre clientèle, un peu comme Rebecca, ou alors on a des choses un peu plus précises sur de la création d'entreprise, sur des envies de changement aussi physiques, hein. Il y en a qui ont envie aussi de changer d'apparence, d'être habillé de telle ou telle façon, changer leur style. Quel profil vous avez, vous, dans votre patientèle, dans votre clientèle?
Moi, je suis sur trois axes. Donc, l'accompagnement coaching individuel et thérapie brève, comme son nom l'indique, avec les outils de la programmation neurolinguistique, la gestalt-thérapie, l'hypnothérapie. Et je suis aussi en accompagnement managérial, coaching et transition professionnelle.
D'accord.
Donc, là, j'interviens dans les domaines d'intervention, accompagnement carrière, évolution professionnelle, bilan de compétences et orientation, voilà, motivation professionnelle, conduite de changement, etc. Et sur la partie individuelle, ben, c'est dépasser les freins et les phobies, les croyances limitantes, prévenir et gérer son stress, accueillir ses émotions, créer un conflit interpersonnel et comment démystifier tout ça et clarifier ses objectifs pour assumer sa prise de décision.
Alors, Eliane, je vous entends un petit peu éloigné. Je ne sais pas si vous êtes éloigné de votre téléphone ou si vous pouvez vous rapprocher du téléphone, qu'on vous entende un petit peu mieux.
Là, vous m'entendez?
Oui,
mieux,
là, c'est, ouais, c'est beaucoup mieux.
Voilà.
Dites-moi, mesdames, la différence finalement à venir vous voir, vous, coach, plutôt que d'aller voir un psychologue, un thérapeute, quelle est la différence?
En fait, le coach, lui, il est là pour accompagner, mais il a ses limites. Et dans ce cas, on oriente aussi vers les autres spécificités, comme la psychothérapie, le consultant, ou la psychanalyse et autres.
Ouais.
Le coach, il est là, en fait, il vous prend de point A et il vous amène à un point B avec sa détermination d'objectifs en fonction de ce que vous avez décidé.
Rebecca Deberg, on entend quand même Eliane nous dire qu'il y a un aspect un peu psychologique malgré tout. J'imagine que les personnes se confient à vous, vous racontent un petit peu leurs choses plutôt personnelles. Vous avez cette oreille, vous avez cette écoute, vous êtes un peu psy sur les bords.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, le coaching, c'est une discipline des sciences humaines.
Hein. Oui, c'est ça.
Sciences humaines et sociales. Alors, sciences sociales, plutôt sociologie en entreprise quand même.
Ouais.
Mais à titre individuel, on est formé par Carl Rogers. Enfin, c'est l'approche centrée sur la personne, l'écoute active. La différence, si vous voulez, c'est que le psychologue, il a une logique de guérison. Donc, il va s'occuper des pathologies.
Ouais.
Alors que nous, pas du tout. Vraiment, pour le dire très simplement, ça énerve tout le monde quand on dit ça, mais le psychologue, il s'occupe plutôt du passé. et le coaching s'occupe plutôt du futur, quoi. Ouais. L'objectif de la personne et non pas la guérison de ses blessures d'enfance.
Ouais. Oui, en soit dit en passant, en guérissant parfois les blessures d'enfance, on peut réussir à aller vers un avenir. Hein.
Et ouais, c'est tout ça. À fait, et il y a des dommages collatéraux au coaching qui peuvent faire que la personne va mieux,
ouais.
Mais ce n'est pas l'objectif premier, normalement. Mais si c'est un effet secondaire du coaching, tant mieux pour elle.
En plus,
on a vraiment des méthodes communes, par exemple les thérapies comportementales et cognitives, je pense qu'on les applique vraiment de la même façon. C'est-à-dire quand les personnes ont des représentations complètement erronées,
ouais,
par rapport au fait, à la réalité, quoi.
Ouais, ça, c'est important de le dire pour, ouais, savoir jusqu'où vous pouvez aller et comment, effectivement, vous pouvez retrouver des façons de travailler communes.
Si vous voulez, moi, par exemple, la limite, elle se situe vraiment dans la pratique. J'ai des personnes qui viennent me parler parfois de dépendance affective, ce genre de choses. Je leur dis ça relève pas pour moi du champ d'application du coaching.
Ouais.
Et je leur explique quels bénéfices elles pourraient avoir à aller consulter soit un médecin, soit un psychiatre.
D'accord, les exhorter à aller voir un autre professionnel.
Absolument.
Très bien. Eliane Ranguin-Molza, qu'est-ce qui peut, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, freiner un coaching? Qu'est-ce qui peut empêcher le bon développement de l'individu qui suit un coaching? Il y a des éléments comme ça qui peuvent parasiter votre travail?
Oui, parce qu'en fait, c'est une démarche qui est personnelle, qui est profonde, et donc cette démarche doit émaner de la personne même, du client.
Ouais.
Donc, on ne force pas quelqu'un à venir en coaching pour faire plaisir à X, Y ou Z. Le client, lui, c'est une relation de parité qu'il a avec son coach. Donc, il n'y a pas de relation d'infériorité, nous sommes d'égal à égal.
Donc, quelqu'un qui vous dit « je t'ai payé des cours chez un coach, vas-y », peut-être pas, c'est peut-être une fausse bonne idée.
Une prescription de coaching, oui, il faut expliquer à la personne pourquoi elle vient là, effectivement.
Oui, parce que l'objet principal du coaching, c'est de permettre au client d'atteindre son objectif à lui, défini. Et donc, que ce soit professionnel ou que ce soit à n'importe quel autre niveau personnel, le client, lui, il est unique.
Ouais.
Il est riche de son expérience. Il vient et il apporte son histoire, ses succès, ses échecs, ses attentes, ses craintes, etc., ses aspirations et tous les événements qui constituent l'histoire de sa vie, hein, en quelque sorte, représentent sa matière première. Et lui, le coach, quant à lui, il apporte sa méthode de travail, sa méthodologie, ses formations, sa connaissance des divers processus qui vont le conduire à justement mieux accompagner le client à la tête de son objectif, puisque c'est une posture qui est décentrée et influente.
Est-ce que, comme c'est une démarche personnelle, mesdames, on la garde pour soi ou on peut et on doit finalement en parler à son entourage?
Moi, je pense que justement, dans le cadre d'un processus de coaching, en général, on fait le tour de la personne, hein, c'est-à-dire, entre autres aussi, on regarde ses ressources, les personnes ressources sur qui elle peut s'appuyer,
ouais,
justement, en cas de problème, si jamais elle a besoin d'aller chercher de l'information, si elle a besoin de soutien, etc. Et les personnes ressources, ça peut être tout simplement l'entourage, les amis, la famille, le conjoint. Donc, une personne qui est dans un processus de coaching, c'est bien qu'elle en parle aux personnes et que des gens soient au courant qu'elle fasse cette démarche, oui.
Il y a des personnes qui viennent voir et qui n'ont personne.
Moi, c'est pas arrivé encore, mais je suppose que oui, bien sûr, ça doit exister.
Eliane Ranguin-Molza, il y a des personnes qui viennent vous voir et qui sont un petit peu esselées, qui n'ont pas de proches, qui n'ont pas justement de personnes ressources, et qui viennent vous voir parce que vous êtes un petit peu le dernier rempart, la personne qui peut les aider, l'ami peut-être aussi qu'elles attendent, qu'elles n'ont pas.
Absolument, c'est vrai que j'ai eu plusieurs cas de figure. J'ai eu aussi des déceptions parce qu'il faut savoir faire la distinction entre l'ami, entre le confident, entre le professionnel.
Ouais.
Voilà, donc les outils ne sont pas les mêmes. Et puis la proximité aussi. Donc l'échange. Et puis il peut y avoir aussi un passé. Donc faire la part des choses, apprendre déjà à se recentrer sur soi, s'écouter, et puis faire le meilleur choix parce qu'un choix est meilleur que non-choix.
Parmi les éléments dont je citais tout à l'heure et que je voulais vous entendre dire, qui pourraient empêcher justement au coaching, il y a, je le disais, les fausses bonnes idées d'y aller parce qu'on nous a exhorté à y aller et que ça ne vient pas de soi. Mon compagnon, éventuellement, m'a, m'a quitté ou ma compagne m'a quitté, je me sens pas bien, je me sens déprimé, diminué. Et on me dit, tu devrais aller voir un coach. Est-ce que là aussi, c'est de votre ressort ou comme on le disait tout à l'heure avec Rebecca, il vaut mieux éventuellement voir un psy ou ça peut rentrer dans votre champ de compétences?
Alors, à la différence de Rebecca qui, elle, est restée vraiment sur le coaching, accompagnement coaching pur,
ouais.
Moi, je suis sur la partie coach-thérapeute.
Ouais.
Donc là aussi, je peux aborder d'autres sujets qui viennent compléter.
Donc, quelqu'un qui, disons-le clairement, a, comme on dit chez nous, un gros poil, un limbé, qui est en rupture, peut éventuellement faire appel à un coach tel que vous, Eliane.
Oui, absolument, parce que moi, je me suis spécialisée dans la programmation neurolinguistique, donc c'est la reprogrammation du cerveau.
On peut donc reprogrammer sa façon de réfléchir, de subir les émotions, les événements?
Oui, tout est dans la perception subjective et aussi la prise de conscience. Puisque, comme je l'ai dit, nous avons... En fait, ce sont des mécanismes hein, que nous mettons en place dès l'enfance avec les injonctions. Et puis, tout ce qu'on hérite de notre environnement, de notre histoire, de notre passé, de notre éducation, religion, etc. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, on peut se poser la question « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce qu'on a voulu faire de moi ?»
Ouais.
Et à ce moment-là, c'est là où ça devient intéressant de pouvoir faire ses choix, remplacer les croyances qui nous ont été inculquées par des croyances plus aidantes au lieu de limitantes, mieux apprendre à se connaître, découvrir son identité véritable, intrinsèque, et puis aussi ses valeurs,
oui.
Et puis son pourquoi, qu'est-ce qui m'anime, quel est le sens de tout ça, je fais tout ça pourquoi. Donc en fait, c'est toujours remettre le focus sur soi.
On doit faire un peu de ménage, Rebecca Domergue, puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a des personnes ressources, mais il y a aussi des personnes qui vous empêchent d'avancer, des personnes qu'on aime à dire, et c'est un peu le mot hein, du moment, des personnes toxiques. On doit faire ce nettoyage-là, dans ses connaissances, dans ses amis, dans sa famille aussi parfois.
Je ne sais pas si on doit le faire, mais en général, quand on est à l'écoute des émotions, parce que les émotions qu'on ressent dans des contextes particuliers, si vous voulez, par exemple... dans un contexte de présence d'une personne toxique. Bon, moi, je me méfie un peu de ce mot. Hein,
c'est un mot très à la mode, pardonnez-moi, mais on lit ça dans tous les magazines. Il est toxique, elle est toxique, il ou elle est un pervers narcissique. Enfin, on entend des choses. Bon.
Oh, oui, alors voilà. Bon. Alors, ça existe, hein, les pervers narcissiques. Mais bon, là, je crois que c'est des autodiagnostics un peu vite fait, peut-être.
Ouais,
mais
ouais.
De toute façon, la colère, déjà... C'est souvent le prémisse qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ah ben voilà.
Quand on est capable d'écouter sa colère, c'est qu'il y a un désir de changement. Il y a quelque chose qui doit bouger. Mais le problème, comme disait Eliane, c'est qu'il y a des peurs qui nous en empêchent, donc des croyances.
Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie? Et là, en coaching, on contextualise toujours ça. Hein. On ne se contente pas d'avoir peur. Nous, quand on dit « j'ai peur », on dit « j'ai peur où ?»« De quoi ? Comment ? Quand ?»
Ouais.
C'est pour reprendre l'analogie du scénario, on questionne, on trouve des éléments factuels.
Ouais.
Sinon, ce n'est pas assez précis. Et c'est bien souvent cette précision qui fait que la personne finit par conscientiser exactement ce qu'elle dit quand elle nous dit « j'ai peur de ça » et on lui demande « dans quelle situation avez-vous eu peur ? Pouvez-vous me donner un exemple ?» Elle se rend compte que la personne, qu'en fait, elle n'a pas eu peur. Elle croit qu'elle a eu peur, mais elle n'a pas eu peur. C'est juste qu'elle résiste à quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. C'est ça, avoir peur, des fois. Quelqu'un qui dit « je veux prendre ce poste » et puis « ah ben non, en fait, ce n'est pas pour moi ». Il y a cette dissonance entre sa réalité et ce qu'elle veut devenir. Et parfois, c'est un gouffre.
Ouais.
Il faut toujours avoir en tête qu'en fait, quand on résiste au changement, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place déjà. On voit ce qui arrive. Et c'est là qu'il y a ce problème de croyance limitante à étudier, à accompagner, le besoin de maîtrise, de regard sur soi, en fait.
Alors, il y a une croyance limitante, j'entends, mais il y a également, malgré tout, on peut le dire, il y a des êtres qui vous limitent, il y a des êtres qui ne croient pas en vous, qui vous diminuent au quotidien. C'est en cela hein, que je disais qu'il fallait peut-être, à un moment donné, analyser un peu son environnement et ceux qui ne vous tirent pas vers le haut, peut-être les identifier.
Ah oui, tout à fait. Alors ça fait partie aussi du travail... de connaissance de soi et de l'environnement. En fait, il y a toujours des situations déclencheuses qui ont fait que, bah tiens, avec telle personne, je me suis sentie pour ça, comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Et qu'est-ce que je veux vraiment ? Absolument.
Ouais. Eliane Ranguin-Molza, est-ce qu'on a une particularité en Guadeloupe dans ce que vous avez analysé, vous qui avez également travaillé là aussi à l'étranger, enfin en tout cas sur le territoire d'abord hexagonal, on a une manière particulière, caraïbéenne, guadeloupéenne de surcroît, d'aborder un peu les choses, un peu la vie, les problèmes également?
Oui, puisqu'il faut tenir compte aussi de notre écosystème.
Oui.
L'écosystème guadeloupéen, c'est vrai que nous avons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a un passé ancestral, colonial, on a une histoire, on hérite
ouais.
de beaucoup de choses. Et donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en considération et qu'on ne peut pas non plus occulter.
Oui. Alors d'aucuns disent qu'on prend les choses un peu à la légère, on est nous les Antillais, on vit sous les cocotiers, dans la chaleur, oh, mais en même temps, bon... La vie est là, la vie douce. Pourtant, non, on a de vraies réalités, on a de vrais problèmes, on est d'accord.
Absolument. Et de toutes les manières, sur toute la planète Terre, il y en a. Hein.
Ouais.
S'il y a des problèmes, les problèmes sont peut-être différents, mais il y en a.
Alors, on va prendre des appels, mesdames, au 05 90 96 6000. Les auditeurs sont appelés au standard, sont invités à vous poser des questions. Vous êtes deux coachs avec nous ce matin et on parle là aussi de changements pour cette année. Est-ce qu'il faut, mesdames, alors là, je caricature, mais à l'instar de ce qu'on fait en général pour ces années nouvelles qui arrivent, on liste un petit peu, on fait des bonnes résolutions, on fait des choses qui nous sont arrivées, qui étaient un peu négatives, ce qu'on ne veut plus. On peut lister comme ça, on peut prendre un papier, un stylo et commencer le pour, le contre, ce qu'on veut plus, ce qu'on voudrait.
Oui, moi je...
Rebecca Domergue.
Oui, je pense que c'est une bonne idée de faire ça parce qu'on est quand même farci de parasitages qui sont énergivores, enfin, c'est-à-dire des choses qui nous empêchent finalement de changer, comme la procrastination par exemple.
Ouais.
Moi, je fais toujours partir hein, d'exemples concrets pour voir les conséquences que ça peut avoir dans notre vie, faire le rapport un peu bénéfice-coût, c'est-à-dire qu'est-ce que j'y gagne à être comme ça et qu'est-ce que ça me coûte.
Ouais.
Poser des limites, une bonne to-do list. Je fais travailler souvent la matrice d'Eisenhower pour ça. Ça, c'est le principe de séparer les tâches importantes des tâches urgentes.
Pour ceux qui ne parlent pas anglais, to-do list, là, ce que je vais faire. Hein. Voilà, la
oui,
liste des choses à
oui,
faire.
Ouais. Ouais. Une bonne to-do list consiste à faire un peu le tri, quoi. Donc, ouais. Ce qui est important et urgent, ce qui n'est pas urgent mais important, ce qui n'est pas important mais urgent. Et puis, de savoir si on peut aussi déléguer ce qui peut l'être, planifier ce qui doit l'être. Une to-do list, c'est déjà planifier une action, finalement.
Ouais. Est-ce que, pardonnez-moi, là, ça me fait sourire, du coup, je souris de bon jeu de mots. Est-ce qu'on doit faire une to-do list? C'est-à-dire, on est seul et on a envie de rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on doit mettre les qualités de la personne qu'on recherche également, qui pourrait nous accompagner aussi, parce qu'on a besoin, parfois, d'un partenaire, d'une partenaire?
Bien sûr, dans les besoins. Alors, il faut se faire plaisir aussi dans la vie, quand même.
Ouais.
Il faut savoir qu'un plaisir répond à un besoin. Et les besoins qui ne sont pas rencontrés, on ne dit pas ça en français, on dit les besoins auxquels on ne répond pas dans la vie demandent une compensation.
Ouais.
Donc, une to-do list, alors, je ne sais pas, pourquoi pas.
Ouais.
Mais moi, je pense qu'en coaching aussi, il faut pas hésiter à amener le client à percevoir ce qui peut lui faire plaisir dans la vie.
Ouais. J'emmène ça, cette question-là, Rebecca et Eliane, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont seuls, qui ne sont pas en couple, qui peut-être n'y arrivent pas ou qui sortent d'une rupture, qui sont veufs, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Et du coup, qui se disent, voilà, c'est difficile quand même d'avancer quand on est seul. Eliane Ranguin-Molza, vous dites quoi à ces personnes, à ces patients, ces clients qui viennent vous voir et qui vous disent mais je suis quand même seul, ça me pèse, j'y arriverai pas parce que je suis tout seul. Vous leur dites non, on peut y arriver même si on est seul?
Ah oui, moi je dis que de toutes les manières, la source, c'est nous. Donc tout part de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui nous tienne la main.
On a besoin de personne puisqu'il faut déjà s'aimer soi-même.
Ouais.
On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Et pour pouvoir donner à l'autre, il faut que moi, je m'aime d'abord. Ce n'est pas égoïste. L'adage qui dit qu'on peut donner à l'autre ce qu'on n'a pas, ou bien la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Ouais.
Donc c'est l'amour de soi. L'amour de soi d'abord. Je m'aime de manière inconditionnelle. Je m'aime avec mes qualités et mes défauts. Et j'accepte justement mes failles, mes difficultés. Et puis mes actes d'amélioration sont là pour m'aider. Et d'où l'importance d'apprendre à m'aimer, donc à m'accepter, à m'affirmer, à apprendre à me connaître déjà. Je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes priorités? Ce dont j'ai besoin? D'accord? Je me reconnecte à moi, je m'écoute. Apprendre à connaître mes importants. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi?
Ouais.
Voilà, c'est ce que Jean-Paul Sartre le dit. Je ne suis pas ce que tu as voulu que je sois, mais je suis ce que j'ai fait avec ce que tu as voulu que je sois.
Ouais.
Donc maintenant, je vais m'interroger sur qui je suis. Je vais connaître mon histoire. Qu'est-ce qui m'a conduit à être celle que je suis devenue aujourd'hui? Comment je me vois? Comment je me perçois? Et qu'est-ce que je vais créer comme vision améliorée de qui je suis aujourd'hui pour aller vers ce que je veux réellement être demain?
On le disait tout à l'heure avec Rebecca, on parlait de to-do list et de do-do list. Les listes sont bonnes de votre côté. Il faut noter justement ces choses-là. Qui je suis, je l'écris. Ce que je veux, je l'écris. On part dans ce type d'exercice ou pas? Il faut avoir un petit cahier, un petit carnet avec soi?
Ah, pourquoi pas, oui. Excuse-moi, Eliane, je t'ai coupé, je te redonne la parole juste après. En fait, moi, pour rebondir sur ce que Eliane vient de dire, je pense que ça peut être, ne serait-ce que bien se connaître.
Oui.
Et savoir qui on est et ce qu'on veut, ce qu'on peut faire et de quoi on a besoin pour le faire, déjà, ça peut entraîner des changements de paradigme individuel, enfin, désolé pour les mots un peu savants, mais des bouleversements personnels qui entraînent des repositionnements.
Ouais.
Et ça implique une nouvelle vision des choses qui font qu'on va changer de comportement.
Ouais.
Et c'est ces changements qui vont faire aussi qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, peut-être.
Et justement, parmi ce que vous dites, Eliane Ranguin, à ceux qui viennent vous voir, vous leur conseillez d'avoir ce petit cahier, ce petit carnet qu'elles emportent avec elles et où elles notent ce qu'elles ressentent, ce qu'elles sont, ce qu'elles pensent être.
Oui, absolument, parce que en fait, d'écrire, on peut verbaliser, mais en écrivant,
ouais.
La parole elle est magie et l'écriture est
une façon de mettre à distance aussi peut-être.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
L'estime de soi, c'est le début de tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ne pas être dans le devoir, mais être dans le désir de. Parce que c'est ça notre boussole émotionnelle qui nous guide. Ce sont les indicateurs pour nourrir cette dimension d'être. Et là-dedans, je vais donner trois astuces. Les trois P, je pense que tu connais aussi, Rebecca, pour
oui,
une permission puissante.
Alors, on répète ces trois P, pardon?
Le niveau pour l'estime de soi, il faut tenir compte de nos trois P.
Ouais.
Protection. Permission. Puissance.
Et puissance. Protection, permission, puissance. On y met quoi derrière chacun? Protection de quoi? De qui?
Moi, déjà, je me protège de moi.
Oui.
D'abord. Donc, je tiens compte, moi, de mes besoins. Donc, je vais me protéger. Si je sais qu'il y a un danger, je vais me mettre au cœur de moi-même avant l'autre. D'accord?
Oui.
Permission, c'est que si une situation, quelle qu'elle soit conflictuelle, est arrivée, quelle a été ma part de responsabilité? Plutôt que d'être victime, qu'est-ce que moi j'aurais dû faire? Ok?
Oui.
Donc la permission et la puissance, c'est ma montée en compétence. C'est que, ok, bon, je fais une introspection, je vois ce qui a été, ce qui n'a pas été. Maintenant, comment je vais faire pour m'améliorer et mettre tout en œuvre pour que les choses ne se reproduisent pas de la même manière?
Qui, mesdames, peut être témoin de mon changement? Parce qu'à part... À part moi-même, et parfois j'ai un regard sur moi qui n'est pas toujours le plus objectif et ça s'entend. Est-ce que je dois avoir des personnes à qui un peu des garde-fous ou des personnes qui doivent vous connaître suffisamment pour se rendre compte de votre changement? Rebecca Domergue.
C'est un peu à vous de vous poser la question. Enfin, quand je dis à vous, à toi, Jordan, aux clients, aux personnes, c'est à quoi verra-t-on que vous avez changé?
Ah oui.
En fait, c'est vous-même en auto-réflexivité, hein, c'est-à-dire en vous regardant vous-même, et c'est en ça que l'écriture, ça peut être pas mal aussi, qui devrait avoir des indicateurs personnels de votre changement.
Ouais.
D'ailleurs, quand on parle de permission, Quand une personne comprend qu'elle a besoin, par exemple, d'apprendre, parce que tout changement s'accompagne d'un apprentissage en général, hein, ouais. Parce que c'est détruire un schéma pour le remplacer par un autre, finalement.
Parce que sinon, on est perdu. Si on change de paradigme et qu'on n'a rien pour auquel s'accrocher, la nouvelle chose, il faut impérativement, si on change quelque chose, il faut avoir une nouvelle chose derrière.
Il y a un apprentissage. Et comme à l'issue d'un bon coaching, la personne, elle aura appris d'elle-même, effectivement, de ses propres valeurs, de ses rêves, etc. Et quand il comprend ce qu'il a besoin d'apprendre, il commence à réfléchir et il part à la recherche d'informations, de connaissances disponibles, de savoir-faire, en fait, et d'occasion de mettre en pratique. Et les fameuses permissions dont on parle permettent, par exemple, de se poser des questions. Il faut que les personnes s'autorisent à changer et que ça fasse sens pour elles. Et par exemple, imaginer un autrement, c'est s'autoriser à devenir créatif. Agir dans quelque chose de nouveau, c'est s'autoriser à se donner une période d'essai et d'observation pour soi. On a le droit de se tromper. Voilà. Ouais. C'est tout ça, c'est des indicateurs qu'on met en place dans des processus de coaching, dans le cadre de changement de paradigme individuel.
Est-ce qu'il faut, mesdames, on est à l'heure du 2.0, est-ce qu'il faut se filmer avec son téléphone, regarder un petit peu ces changements, regarder d'anciennes photos, peut-être aussi changer ses réseaux sociaux, changer les photos qu'on a mis avant, qui étaient un petit peu tristounettes ou qui reflétaient un peu l'ancien moi. On peut faire tout ça, on peut se servir justement de ces réseaux sociaux qui renvoient un peu une image de soi.
Alors pour moi... Alors, d'une façon plus générale, parce que pour les réseaux sociaux, ça dépend à quoi ils nous renvoient, bien sûr. Ça
mais on vit avec aussi, Rebecca Domergue, maintenant, quelque part. T'as Insta, t'as Facebook, t'as ceci, t'as cela. J'ai envie de dire que c'est presque une continuité, comme le téléphone portable qu'on a dans la main, qui est devenu un peu une extension de soi-même. On vit avec ça, on est d'accord?
Oui, on vit avec ça, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai entendu dans plusieurs études, en plus, que le Instagram rendait les gens malheureux. Alors, c'est parce que la représentation que les gens ont des autres sur Instagram, c'est sublimé, quoi, quelque part. On n'est pas dans la réalité,
c'est
vraiment.
C'est pas la vraie vie, ouais.
On est dans les meilleurs moments des gens, dans ce qu'ils ont voulu montrer de plus beau, de plus classe, etc.
De faux, parfois.
Oui, c'est-à-dire, faux, c'est peut-être déjà un jugement, hein. Moi, il n'y a pas de jugement en coaching, on protège les personnes, mais ce sont des représentations, voilà. C'est pas forcément la réalité. Et ouais. En plus, j'ai lu dans des articles psychos, pour le coup, que le fait de scroller comme ça tout le temps Instagram ou Facebook, ça agissait effectivement sur l'humeur.
Parce qu'on est à la recherche du beau, quelque part. On est là, on a envie de voir, comme on dit, la best life, la meilleure vie des autres.
Et les gens se disent que leur vie est pourrie.
Ah ouais, c'est ça.
Et que la vie des autres a l'air vachement mieux. Ça aussi, c'est des croyances, finalement.
Eliane Ranguin-Molza, on est influencé aujourd'hui par ces réseaux sociaux, comme dit Rebecca Domergue. On peut être malheureux de voir que pour le reste du monde, tout va bien ou a l'air d'aller bien?
Oui, tout dépend. Alors, il y en a qui sont, plus faciles aux transitions et changements. Et il y en a d'autres qui restent cantonnés à leur zone de confort, tout simplement. Donc, c'est vrai que maintenant... le recrutement avec les nouvelles technologies à l'ère du numérique, ça a beaucoup évolué.
Ouais.
Technologie finit partout. Et donc, même en entreprise, on va utiliser divers supports innovants, le chat, les réseaux sociaux, les blogs pour recruter de nouveaux salariés. Donc, on est dans une nouvelle méthode de 21e siècle et que, il peut y avoir des critiques et des techniques. Mais finalement, après, c'est toujours une perception subjective. Je sais que on peut avoir aussi la nostalgie du recrutement des années 90.
Hey, oui.
Avec les annonces d'emploi dans le journal, les lettres de motivation rédigées à la main.
Ouais.
Tu te rappelles de tout ça, en fait, les CV reçus par courrier, etc.
Ah, on est loin de tout ça. En tout cas, ça a évolué, ça a beaucoup évolué maintenant.
Hein. Effectivement, le recrutement d'hier n'est plus... celui d'aujourd'hui, la transformation digitale a accentué le processus de recrutement.
Vous restez avec nous, mesdames, on va prendre des appels. 05 90 96 6000. On a d'abord Rudy avec nous. Bonjour Rudy.
Salut Jordan.
Bienvenue Rudy. Il a la pêche Rudy. Rudy, vous voyez un coach ou vous êtes coach vous-même?
Non, pas du tout. Je suis un simple citoyen lambda.
Très bien. Bon, en tout cas, un citoyen qui a la pêche. On vous écoute.
Alors, les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je fais un peu la transition. Il y avait la séquence Minitel et là, on a la séquence Facebook. C'est juste pour faire un peu stigmatiser un petit peu. Alors, il y a de tout, de très bien, de très bon et il y a le pire. En fait, Ce qu'on doit faire, en fait, c'est... Alors, il y a aussi que dans le business aussi, où ça aide beaucoup, parce que c'est dans l'air du temps.
Et oui, ce qu'on disait à l'instant. Mais,
voilà, c'est dans l'air du temps, il faut s'adapter, il faut se former. Ça, on ne le dit pas assez pour nos entrepreneurs. Il faut se former pour pouvoir, ne serait-ce que développer son panel clientèle. Je ferme la parenthèse.
Oui.
Après, l'aspect urgent, je dirais, ce serait plus pour revenir à notre petite Guadeloupe qu'on aime tant, et nous, pour parler de nous, c'est qu'on puisse déjà s'adapter et ne serait-ce que pour nos jeunes, les éduquer, parce que c'est vrai que ça débarque à une vitesse grand V, et si on ne sait pas l'utiliser, donc faire en sorte que ça soit comme un outil, pour tout, hein, pour s'amuser, pour faire des vidéos, enfin, qu'importe, on peut se laisser bouffer très rapidement.
Ce qu'on voulait dire, Rudy, surtout dans ce cadre-là, puisqu'on parle de coaching également, mais est-ce que le danger des réseaux sociaux, on en parlait avec Rebecca Domergue et Eliane Rangamolza, c'est le danger d'identifier les réseaux sociaux comme étant un peu la vraie vie et de voir la vie des gens comme étant une vie merveilleuse et soi-même, en fait, ça nous fragilise parce qu'on n'est déjà pas bien et on a l'impression que le monde va bien sauf nous.
Alors, en fait, ça, c'est surtout dû à l'éducation qu'on a, en fait.
Ouais.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et ça a été dit, je pense, il y a quelques minutes. On peut montrer, je peux mettre une belle perruque,
ouais.
Faire un beau masque. Tiens, c'est le père du carnaval. Ben, vous allez me voir. Voilà, mais bon, c'est ce que je veux montrer à l'instant T, mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Après, si celui qui est de l'autre côté s'identifie à ça, c'est à lui, c'est lui qui... Voilà, mais peut-être que lui, sa vie est tout fleurie. Voilà, en fait, c'est éphémère, en fait. On envoie une image éphémère. On peut aussi envoyer une vraie image, que ce soit sa propre personne. Mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est justement se dire que ma vie est pourrie et que oui, parce que celui-là, il est toujours en train de danser, en train de faire la belle vidéo, sourire, faire blaguer, machin, que c'est ça la vie. Non. Et c'est là que je reviens à ce que je disais à l'initial. Il faut juste qu'il y ait une éducation pour bien montrer que voilà, quelqu'un peut montrer une face, mais c'est pas forcément ça. Et surtout, qu'on ne puisse pas s'identifier à ce qu'on voit, parce que voilà, ça peut être éphémère, ça peut être...
Très bien.
La personne a voulu montrer, Jordan a voulu montrer une séquence où il était en caleçon.
Oui, mais enfin, pas moi. Bon, en tout cas, on montre le meilleur. Merci Rudy, merci beaucoup, merci de votre intervention. On va arriver au terme de cette émission, mais on l'a dit, mesdames, et même si on a d'autres appels de nos auditeurs, on va... malheureusement clôturé, le temps passe si vite, mais ne pas s'identifier et les dangers effectivement des réseaux sociaux et se rendre compte encore une fois qu'on poste toujours le meilleur et ça ne correspond pas toujours à la réalité, soyons vigilants. Je vais vous laisser le mot de la fin respectivement mesdames, et Eliane Rangamolza.
Oui, alors merci encore Jordan pour l'invitation, j'ai pris énormément plaisir et donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et ce n'est que le début du commencement, n'est-ce pas ? Nous sommes en février, donc nous avons toute l'année devant nous pour pouvoir revenir sur de belles thématiques.
Très bien.
Je remercie aussi les auditeurs de Guadeloupe La Première. C'est Service Première, c'est ça ?
Absolument, Service Première, ouais. Du lundi au vendredi. Comment fait-on, et on se quitte là-dessus, Eliane Rangamolza, pour éventuellement avoir davantage de renseignements, peut-être vous contacter ?
Absolument. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, erm-coaching.com,
ouais.
Mon site internet, Facebook, Instagram, LinkedIn, mon portable 06 90 52 66 57 et je suis moulienne au 40 boulevard Rouget.
C'est noté au Moule. Bel endroit, vous avez bien eu raison. C'est the place to be. C'est un peu les Champs-Élysées du Moule, hein, le boulevard Rouget. Merci beaucoup. Merci encore. Rebecca Domergue.
Oui, et bien merci à l'auditeur pour son intervention. Je voudrais finir en disant, quitte à s'identifier absolument à quelqu'un, si on veut prendre une référence externe pour se comparer à elle, il faut connaître les valeurs de cette personne, parce qu'on ne se réfère pas à un modèle comme ça par hasard. Donc autant se poser les questions pour cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait elle pour en arriver là, et est-ce que ça me correspond, et est-ce que je peux faire pareil ? Voilà.
Très bien. Merci, donc, Rebecca Domergue. Rebecca Domergue, on peut vous joindre où ? Est-ce que vous voulez que je vous trouve un local au Moule ?
Non, pas besoin. Aux Abysses. Oh. Alors, j'ai un site internet aussi où tout le monde peut venir. Alors, moi, mon site, c'est rd-coaching.com. Alors, attention, Jordan Coaching, il n'y a pas de T.
Ah. Pourquoi vous me dites ça?
Par rapport au replay sur Guadeloupe.
Ah oui, effectivement, on a dû mettre un T, oui, d'accord. Donc très bien, CH.
Et c'est CH directement, voilà. Et mon numéro de téléphone, 18 69 40.
Très bien, c'est bien, au moins vous réécoutez nos replays, c'est bien.
Absolument, oui, oui, tout à fait.
Bon, très bien. Merci Rebecca, merci Eliane, merci encore à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci Jordan.
Je vais vous dire une dernière chose, bonne année.
Et bonne année.
Voilà. Ainsi s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle effectivement, comme l'a rappelé Rebecca Domer, Kéliane Rangamolza, elles sont disponibles en podcast, ces émissions. Voilà. Demain, nous parlerons droit dans Service Première et justement du rôle du directeur, du président, du responsable de société. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il risque justement celui-ci quand il est incriminé dans des affaires? Quelle est sa responsabilité d'une manière générale? C'est important.